des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une fois de plus des livres plein les oreilles avec beaucoup de plaisir, ma foi. Une émission toute spéciale aujourd'hui, spéciale littérature jeunesse, mais aussi spéciale bon anniversaire puisque ce sont les 70 ans qu'on célèbre cette année, 70 ans de la maison d'édition célèbre Pierre Tisser. Alors Michel Tisser est là pour nous en parler de ces 70 ans et puis pour parler aussi un petit peu du métier d'éditeur en 2017. Pas facile comme boulot, je vous le dis tout de suite. On va aussi tout de suite, dans quelques secondes, s'entretenir avec Gérald Cousineau autour d'un livre de Sergio Coquis. En seconde partie, j'accueille une auteure jeunesse, pas seulement jeunesse, adulte aussi, José Ouimet. Et aussi, je vais m'entretenir avec une jeune bénévole. Oui, il y a aussi des voix jeunes, des gens qui font du bénévolat. C'est Christelle Quintin qui lit des livres jeunesse pour Vues et Voix. Et il y aura aussi Yannick Olassa. Grosse émission, hein, je suis contente. J'aime ça. Alors, si tout va bien, je devrais maintenant avoir au bout du fil Gérald Cousineau. Salut Gérald.
Bonjour Clotilde.
Grosse émission, hein?
D'abord, bravo. Est-ce que j'ai bien compris? Bon, 70 ans, bravo.
Non, ce sont pas... Coquin, va.
Oh, j'ai mal entendu.
Oui, c'est cela, oui, c'est cela. Je suis vraiment contente, Gérald, que vous m'ayez évoqué, que vous aviez choisi un livre de Sergio Coquis. Je vous avoue que j'adore la littérature de ce monsieur. Et il n'en a encore jamais été question, je pense, à l'émission, depuis que je l'anime. Alors, j'en suis vraiment ravie. Gérald, présentez-nous ce livre.
Alors d'abord, je ne suis pas dans la littérature jeunesse aujourd'hui.
Hein, non, c'est vrai que vous faites un petit peu exception à la règle. Vous êtes deux exceptions à la règle aujourd'hui.
Bon, alors, pardonnez-moi.
Mais non, mais je vous en prie.
Monsieur Coquis, c'est un monsieur qui est né en 1944 à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est un romancier, mais c'est également un peintre. Hein. Il a beaucoup écrit, il a déjà plus d'une vingtaine de livres à son actif. Et son tout dernier, ça s'appelle... un petit livre, c'est un petit livre en effet, hein, 220 pages, à peu près 7 heures d'écoute pour ceux et celles qui vont l'écouter, et c'est disponible au SQLA. Donc, je dirais tout de suite que Coquis dédie son livre à M. Evgeny Zamiatin, l'auteur, un écrivain russe, auteur du célèbre roman d'anticipation « Nous autres », publié à l'étranger. Et M. Zamiatin est mort à Paris, exilé à Paris, en 1937. Bon. Je reviendrai plus tard à ce moment, qui est évidemment c'est très important. Donc, Monsieur Coquis, nous présente un monsieur qui s'appelle Sotochkine, voilà. Si vous permettez, je vais en parler de lui comme Anton, ce sera plus simple.
Oh oui.
Alors, ce monsieur Anton, donc, est un professeur de littérature. Bon, il est dans la fin trentaine, littérature russe, je précise, et ce n'est pas du tout, mais là, pas du tout un dissident. Hein. Il enseigne la littérature russe, oui, je l'ai dit, dans une université de Moscou, et les écrivains dont il parle sont bien sûr des classiques, ou bien des écrivains qui sont reconnus par, bon, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de nomenclatura, accepté par le régime, disons. Alors, un jour, ce monsieur, qui est marié, qui vit dans un deux pièces, avec cuisine collective, toilette à l'étage, enfin, nous sommes vraiment dans les années 30.
La Russie profonde, oui. Voilà. En tout cas, à la telle
donc,
que...
ce monsieur, à la fin du semestre, il ramasse les copies de ses élèves, et il y a une étudiante, Olga, de son prénom, qui glisse à son insu, dans son sac, dans sa besace, un livre interdit. En Russie, alors, et c'est le roman « Nous autres » de M. Evgeny Zamiatin. Lui ne s'en doute pas, il rentre chez lui, et là, trouve le roman, et bien sûr, il va, durant la fin de semaine, il profite de la fin de semaine parce que sa femme est partie pour un congrès de je ne sais plus quoi. Ben, sa femme, je le dis tout de suite, elle est très assoiffée de pouvoir, alors que lui, c'est un littéraire, et je mets ça au dixième degré, il vit vraiment dans les livres, alors qu'elle est vraiment assoiffée de pouvoir. Donc, elle n'est pas là une fin de semaine, il va... Et là, c'est drôle, parce qu'il ferme la porte à clé, il s'assure que sa porte est bien fermée à clé, il prend le livre, il le lit, Au début, non, il ne trouve rien de subversif dans ce roman.
Oui, oui.
Et pourtant, son opinion va changer peu à peu. Bon, là, il se rend compte peu à peu, justement, que ben, le livre, oui, et là, je reviens tout de suite à ce roman, nous autres, ben, mm-hmm. c'est un roman d'anticipation que Zamyatine, il situe l'action 6 siècles après le 20e. Donc, on est en 2400 à peu près, mm-hmm. Ou 2600, enfin. Donc, au départ, on pourrait dire, ben, ça ne concerne absolument pas la Russie stalinienne, à erreur. Parce que dans le roman de Zamyatine, eh ben, l'auteur présente un monde où les personnalités sont fondues dans un grand tout. Il y a un chef, si vous voulez, qu'on appelle d'ailleurs le bienfaiteur. Il y a un État unique, tiens. Or, le roman a été bien sûr interdit en Russie. Il a été publié pour la première fois à Paris. Mais c'est ce fameux roman sur lequel notre ami Anton met la main. Donc, peu à peu, ben là, son opinion change. Parce que dans la Russie de Staline, évidemment, il y a une sorte de paranoïa généralisée. Hein? Les moindres propos peuvent être interprétés à travers. Alors, c'est dommage parce que les personnages finissent par se méfier de leur propre conjointe, de leurs collègues, etc.
De leur propre ombre même, si j'ose dire.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il y a un incident, entre autres, à la cantine de l'université, un collègue qui aimerait entrer en contact, dire des choses plus profondes à notre ami Anton. Ben non, Anton se méfie. Bon, il se blinde tout d'un coup comme si l'autre voulait lui faire parler voulait lui faire parler en mal de la cuisine, de la cantine, des choses comme ça. Donc, ça va jusque-là. Alors, à un moment donné, Zamyatine se rend compte que le petit livre est beaucoup plus grave qu'il ne le croyait au départ, beaucoup plus sulfureux. Il va essayer de trouver la jeune étudiante, mais elle a disparu. Et il y a des policiers qui s'amènent. Il apprend qu'effectivement, la jeune gars a disparu. Bon. Alors, d'accord, l'enquête suit son cours. À un moment donné, la police s'amène. Alors là, c'est plus sérieux. Alors, il est convoqué à un autre interrogatoire. Et là, ça se corse. À la fin, il est arrêté, emprisonné. Et un peu plus tard, il va rencontrer un procureur. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur la table du procureur? Le fameux petit livre. Le fameux roman de Zamyatine. Donc, je ne vous dirai pas à quoi il va être condamné, parce qu'il va être condamné. D'ailleurs, il ne pourra même pas se faire entendre. Le procès se fait sans lui. Il va être condamné. Pas à mort, rassurez-vous. Mais ce qui est formidable dans ce roman, c'est que Kokis nous montre l'impitoyable machine vraiment devant Anton, qui est un tout petit rouage là-dedans. Mais n'empêche qu'Anton, c'est curieux, mais plus l'action avance, si je peux dire, plus il se sent bien. D'ailleurs, il dit « Je me sens étrangement tranquille ».
Tranquille.
Et oui, il devient serein, parce que là, pour la première fois de sa vie, il va sortir du carcan auquel l'oblige l'idéologie communiste. Il va penser par lui-même. Il va reconnaître que le roman qu'il a lu, le petit livre qu'il a lu en cachette, eh ben, c'est exactement ce dans quoi l'URSS, la Russie qu'on disait à l'époque, vit, s'engage. Donc, il nous montre, Kokis nous montre le cheminement impitoyable de la machine communiste, mais en même temps, cette prise de parole, si on peut dire, cette sérénité que Canton acquiert, et ça, c'est vraiment super. Parce que là, on a devant nous un homme qui devient libre dans sa tête.
C'est ça.
Et on devine que la Russie, Staline, ne pourront rien contre ça.
Absolument. Oh, bravo. Mais écoutez, encore une fois, Gérald, à chaque fois que vous nous parlez d'un bouquin, on a tout de suite envie de se ruer à la librairie ou, je l'espère pour les auditeurs, à la bibliothèque du SQLA ou de KE, bien sûr.
Oui, il est au SQLA.
Oui.
Et, oui, ça veut dire que moi, je n'en ai pas beaucoup entendu parler en 2016.
Non.
Mais c'est dommage, parce que c'est un écrivain qui publie année après année son livre et c'est toujours intéressant.
Et c'est toujours intéressant. Moi, je peux vous dire que, au SQLA, j'ai fait une petite recherche. Il y a Le Sortilège des Chemins. Je vous en cite quelques-uns, signé Kokis, Sergio Kokis. Donc, un petit livre, bien sûr, dont nous venons de parler. Et il y a Saltimbanque. Ce livre-là, si vous saviez comment j'ai aimé ce bouquin, il nous amène, et c'est sur plusieurs tomes, il nous amène avec un personnage qui s'appelle Macarius, d'ailleurs, qui fait aussi l'objet d'un de ses romans. Nous sommes dans un cirque en Argentine et on s'aperçoit que la plupart des personnages qui officient, qui jouent là-dedans, dont un clown, dont je ne sais plus, un trapéziste, il me semble, sont tous d'anciens nazis qui se sont réfugiés en Argentine après la guerre. Alors, oh, c'est fantastique comme écriture, vraiment, Kokis, K-O-K-I-S. Il y a aussi, au SQLA, Le Fou de Bosch. Il y a Nigao et Doralis. Ouais. Là, je vous parle de livres que malheureusement, je n'ai pas lu.
Titre-là. Le Pavillon des Miroirs, peut-être.
Oui,
je sais que je l'ai lu, La Gare. Oui.
Oui, La Gare. Et puis, Le Maître de Jeu aussi, qui est un livre phare dans sa bibliographie. Bref, si vous vous lancez dans l'univers de Kokis, là, vous allez avoir très envie d'en lire d'autres.
On est toujours surpris d'un livre à l'autre. C'est un univers particulier.
Absolument.
Il n'y a rien de répétitif dans son œuvre. On est toujours surpris et agréablement surpris, je l'ajoute.
Bon, et bien Gérald Cousineau, comme toujours, bonheur, bonheur, bonheur de vous entendre.
Au plaisir.
Au plaisir, cher ami. Passez une belle fin de journée. Puis j'espère qu'on va vous retrouver aussi très bientôt en studio.
Bientôt. Au revoir.
Allez, au revoir, Gérald. À cette émission, on invite souvent, même beaucoup, des auteurs, ce qui me semble normal puisqu'il y est question de livres, mais rarement d'éditeurs. Et j'ai profité cette année d'un anniversaire, les 70 ans de la maison d'édition Pierre Tisser, pour en inviter sa fille, Michèle Tisser. Bonjour, Madame Tisser.
Bonjour, Clotilde.
Permettez que je vous dise Michèle.
Absolument.
Merci tellement d'avoir accepté cette invitation-là.
Un grand, grand plaisir.
70 ans. Est-ce que c'est la plus vieille ou l'une des plus vieilles maisons d'édition?
C'est la deuxième plus vieille, après Fides.
Après Fides, c'est la deuxième plus vieille. Et alors donc, je voudrais dans un premier temps, si vous me le permettez, on est en 2017, vous êtes donc éditrice, hein, vous gérez, vous vous occupez de...
C'est la directrice générale.
Vous êtes la directrice générale. Qu'est-ce que ça veut dire être éditrice en 2017?
C'est un très beau métier, depuis toujours. Un métier d'ailleurs dont mon père a été le grand phare et le grand modèle. Et pour moi et pour beaucoup, beaucoup d'autres éditeurs qui aujourd'hui travaillent dans le milieu du livre et dont plusieurs ont vraiment appris avec lui. C'est un très beau métier, mais c'est un métier qui est de plus en plus difficile.
Pourquoi ?
À cause du milieu économique dans lequel on se trouve, à cause de l'invasion du numérique, qui fait que le livre papier est de moins en moins lu, qu'il coûte de plus en plus cher à produire, à imprimer. Et donc, parce qu'il coûte plus cher, il se vend moins aussi.
Bien sûr, oui, on le sait.
C'est un peu un cercle vicieux.
Oui.
Il y a énormément de concurrence maintenant. C'est vrai que quand papa a commencé en 1947, il envoyait des livres dans des enveloppes brunes aux membres du club, de son club, le Cercle du Livre de France, comme s'appelait alors notre maison d'édition, parce que les livres qu'il publiait étaient proscrits. Alors, et puis il a commencé par publier des auteurs français qui n'étaient pas disponibles ici, qui étaient sur la fameuse liste noire de l'Église, à l'index. Et donc...
Quels auteurs, par exemple, est-ce que vous avez
des auteurs très... Des Goncourt, comme Malraux, Mauriac, enfin, les grands de l'époque, quoi. Mais très, très vite, il s'est mis à recevoir des manuscrits de jeunes éditeurs en herbe, auteurs en herbe québécois, qui n'avaient tout simplement pas trouvé d'exutoire à leur talent, et qui, tout à coup, voyait la possibilité de peut-être être édité. Donc, il a servi un peu de mentor à beaucoup d'auteurs qu'il a été le premier à publier, comme Hubert Aquin, comme Claude Jasmin, comme tant d'autres. Et il a été un peu un mentor et un guide pour beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et sa maison d'édition a grandi, d'autres maisons d'édition ont commencé à naître. Et il a fait évidemment beaucoup de démarches auprès des gouvernements pour obtenir des subventions à l'édition, parce que le marché québécois est si petit que ce n'était pas rentable.
Non, c'est ça.
Alors, l'épanouissement de la culture littéraire québécoise, je crois, lui doit beaucoup.
Pierre Tisser, c'était un sacré bonhomme. Vous avez eu des parents aussi bien Pierre Tisser que Michel Tisser, votre maman,
oui.
Donc, qui était ici une célébrité journalistique à la télévision, etc.
Oui.
C'est quand même deux piliers assez solides que vous avez au-dessus de vous, Michel. Je voudrais que vous nous parliez d'abord un peu de Pierre,
oui.
Et puis on évoquera un petit peu votre maman, Michel.
Alors Pierre, c'était un Français qui avait émigré aux États-Unis quand il s'est marié pour la première fois, pas à maman, mais à une autre, une jeune Américaine, et qui a dû retourner en France. De toute urgence, la déclaration de guerre, parce que la patrie l'appelait et il est rentré malgré les protestations de sa jeune femme. Mmh. Il a mené un combat de 3 jours à la tête de ses hommes comme lieutenant dans l'armée française, dans une petite ville qui s'appelle Formerie, et qu'il a défendu pendant que toute l'armée française se retirait autour d'eux. Ils ont tenu tête à l'armée allemande pendant 3 jours.
Ça a d'ailleurs donné lieu, je voudrais en parler, mais très brièvement, parce que malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été enregistré. Mais quand
55
même,
heures de guerre.
Voilà, 55 heures
grand,
de guerre.
Son grand livre qui a obtenu le prix CAS en 1943, en pleine occupation, parce qu'il l'a écrit en camp de prisonnier. Il a été prisonnier pendant 5 ans. Et après, on va le rééditer d'ailleurs cette année en son honneur.
C'est vrai.
Oui, en hommage à lui. Et la ville de Formerie va tenir un lancement. Enfin, ça sera l'occasion peut-être d'en parler à un autre moment.
Et de l'enregistrer à ce moment-là.
J'espère.
Et nous aurons l'occasion de vous en reparler.
Et c'est effectivement un homme qui a tout perdu. Son père est mort dans le camp de Buchenwald. C'était un résistant. Son frère, François, est mort, tué par la Gestapo. Et papa, après la guerre, a émigré au Canada pour recommencer sa vie. Il avait perdu sa jeune femme qui en avait épousé un autre pendant la guerre en le portant disparu, ce qu'il n'était pas.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, son jeune fils qu'il avait laissé, son bébé de 6 mois, qu'il avait laissé en partant, ne savait même pas qu'il était son père quand il est revenu. Et il s'est installé à Montréal, il a rencontré maman.
Alors, parlez-nous.
Et ça a été le coup
de
foudre.
Voilà, Michel Tisser.
Ils se sont rencontrés d'ailleurs dans un contexte comme celui-ci,
c'est
de part
vrai.
Et d'autre d'un micro.
Oui.
Maman l'interviewait. Il est tombé amoureux d'elle sur le champ. Il lui a envoyé un bouquet de roses et lui a demandé de l'épouser. Et elle a dit oui.
Et ils sont restés ensemble.
Ils sont mariés un mois plus tard. Je suis née 11 mois après cela. et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin des jours de papa, puisqu'il est mort le premier en 95, mais plus de 50 ans. Alors, oui, c'était un couple extraordinaire.
Alors, je suis allée faire quelques petites recherches, évidemment, puisque je savais que j'allais vous recevoir. Et j'ai vu que votre frère, Philippe, malheureusement décédé, mais a écrit un livre jeunesse sur la vie de votre papa.
Oui, un petit livre, en fait, c'était presque une BD illustrée, très joliment illustrée, qui s'appelle
La petite histoire
de Pierre Tisser.
Voilà.
C'est l'histoire de sa traversée de l'Afrique avec des copains. Il a fait le raid Alger le Cap avec 3 copains dans une Hispano-Suiza, je pense en 36.
Ouais.
Ils ont battu le record du monde qui était détenu par les Britanniques. Enfin, une histoire de fou. Ils sentaient venir la guerre, ces jeunes gens-là, et ils voulaient faire un coup d'éclat.
C'est ça. Et il y a aussi, évidemment, le fait que votre maman, Michel, a écrit également un livre qui s'appelle « Mémoires intimes ».
Oui.
C'est le même titre que Simenon, mais ça n'a rien à voir avec la vie de M. Simenon, à part le titre.
Oui.
Mais « Mémoires intimes », qui est enregistré aussi. Hein, et je précise que la petite histoire de Pierre Tisser se retrouve également au SQLA, ainsi que le livre dont nous parlons maintenant, « Mémoires intimes » de Michel Tisser.
Oui.
Ce livre-là, parce que quand on dit « Mémoires intimes », le mot intime, on dit « Attends, elle ne va quand même pas nous raconter toute sa vie et ses amours. » Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là?
On peut trouver l'histoire de maman, qui est une histoire assez simple quand même. C'est l'histoire de son enfance, de comment elle a grandi. Elle a eu une enfance triste parce que sa mère est partie quand elle avait 9 ans avec un autre homme que son père. Et c'était dans les années 20. C'est inutile de dire que ça a causé un scandale énorme parce que Le père de ma grand-mère était député fédéral de Bonaventure et un homme politique, donc, et ça a causé un scandale majeur. Et maman a été envoyée au couvent parce que mon pauvre grand-père, qui était avocat, ne pouvait pas s'occuper d'elle. D'ailleurs, il n'aurait pas su comment. Et il l'a envoyée au couvent. Je pense que c'était au couvent au Sacré-Cœur, je ne me souviens plus.
Elle raconte tout ça dans son livre.
Oui, elle raconte
tout
ça. Elle a eu une adolescence très solitaire. Et puis, elle a rencontré son premier mari à l'âge de 19 ans. Elle s'est mariée. Elle est tombée amoureuse, elle s'est mariée, elle a eu un enfant qui est mon demi-frère Jean de Brabant. Mmh. Et très vite, la guerre est venue. Et elle aussi, son mari est parti à la guerre.
Absolument.
Et il en a rencontré une autre de l'autre côté de l'océan. Alors, après la guerre, elle était libre et papa aussi. Et c'est comme ça qu'ils sont... Ils ont pu se rencontrer et s'aimer.
Alors, je voudrais rappeler hein, Michel Tisser, la maman, Mémoires intimes, également disponible, bien sûr, au SQLA. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand je préparais cette émission-là, je me disais, oh, c'est comme la famille Strauss. Il faut préciser Michel Tisser, mère, ou Michel Tisser, fille.
Ah oui, ça, c'est toute ma vie, ça.
Et puis, Michel, vous êtes auteur aussi.
Oui, oui, j'ai écrit deux romans historiques. J'en prépare un troisième depuis fort longtemps parce que je manque de temps, tout simplement.
Alors, roman qui se retrouve au SQLA.
Ah,
je voudrais
oui.
que vous nous en donniez le titre et que vous nous en parliez un petit peu.
Oui, alors le premier, le Thomas a été publié en premier lieu par Robert Laffont. Ça s'appelait « La passion de Jeanne ». Je ne sais pas si c'est cette version-là qui a été enregistrée, mais... Quand j'ai publié mon deuxième livre, la suite, qui s'appelle « Avant Guernica », comme j'avais fait mes preuves chez Laffont, je me suis dit « bon, bah, je rentre à la maison ». Et puis, je l'ai fait publier aux éditions Pierre Tisser. Et on a profité de l'occasion pour publier une version révisée et améliorée, à mon sens, de « La passion de Jeanne ». Et c'est toute la série maintenant qui devient « La passion de Jeanne ». Donc, le tome 1 s'appelle « Une rose tardive » et le tome 2 s'appelle « Avant Guernica » et le tome 3 s'appellera « La disparue »
et
quand je l'aurai fini.
Qui est cette Jeanne qui n'a rien à voir avec Jeanne d'Arc?
Eh bien, Jeanne, c'est l'idée de base, c'était de j'ai voulu m'inspirer du personnage de ma grand-mère, justement, qui a fait cette folie en 1928 de quitter son mari... Pour un homme beaucoup plus jeune qu'elle, en fait, le vrai pour qui elle a quitté son mari. Mon pauvre grand-père était beau. Je pense qu'il avait 21 ans. C'était un Suédois, un playboy. Enfin, elle est partie en Suède avec lui. Et puis, quand elle s'est aperçue qu'il l'a trompée, elle est revenue. Mais mon grand-père ne l'a pas reprise. Elle a une vie quand même très triste. Que je trouvais pas, moi, ce qui m'a, moi, j'avais envie de raconter une autre histoire.
Bien sûr.
Et donc, je me suis inspirée de l'incident dans la vie de, en fait, de toute la vie de ma grand-mère, son enfance. Elle a été envoyée dans un couvent de carmélites par une mère folle de religion à l'âge de 16 ans, enfermée là-dedans, au Manitoba, en plein hiver, dans un couvent sans chauffage, où on jeûnait tout l'hiver. Elle en est presque morte, d'ailleurs. Alors, ça, je trouvais ça intéressant. Oui. J'ai repris ça. Mais j'ai créé un personnage avec ces éléments-là et puis j'ai laissé ce personnage-là me guider.
Mmh.
Et ce n'est pas ma grand-mère, c'est mon personnage
c'est
de Jeanne
exactement.
À qui il arrive toutes
Alors,
sortes de choses.
Tous ces livres-là sont également disponibles, donc La passion de Jeanne et puis après Guernica ou avant?
Avant
Guernica, pardon, tout d'un coup j'ai mis un blanc de mémoire
Parce
et je m'en excuse.
Le tome 1 se passe pendant les années 20, le
c'est
tome
ça.
2 pendant les années 30.
Ben oui, d'accord. Bien
et
sûr.
Le tome 3 se transporte à la guerre d'Espagne à la fin des années 30.
Michel Tisser, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne sur les 70 ans de la maison d'édition que vous dirigez maintenant, la maison d'édition Pierre Tisser. Vous éditez de la littérature
uniquement.
Uniquement.
Uniquement de la littérature. C'est pourquoi nous sommes demeurés très petits.
C'est ça.
Comme maison, parce qu'on ne publie pas de livres de cuisine, on ne publie pas d'astrologie,
okay.
on ne publie, vous voyez, les livres qui se vendent beaucoup, c'est la mission que nous a donnée notre père, c'est de publier de la littérature. Et je crois que notre marque de commerce est très très connue pour la qualité des ouvrages que nous publions. Mm-hmm. Et d'ailleurs, José Ouimet, que vous allez interviewer,
oui,
est une de nos auteurs.
D'ailleurs. Bonjour d'abord, José. On ne sait pas encore. Je voulais profiter de cette perche qui m'est tendue. Vous êtes auteur adulte, mais aussi jeunesse.
J'ai commencé comme auteur jeunesse d'abord.
D'accord, oui. D'accord. Et pour vous, Michel Tisser, la littérature jeunesse, c'est fort important pour les éditions
Pierre
Tisser.
C'est très important parce que c'est comme ça qu'on forme les lecteurs.
Ah, c'est ça, exactement.
C'est d'abord en accrochant les jeunes et en les habituant à une littérature vraiment littéraire de grande qualité avec un français impeccable où ils peuvent enrichir leur vocabulaire et laisser filer leur imagination.
Vous savez, José, je voudrais rassurer les auditeurs, je vais bien sûr passer du temps avec vous en début de la seconde partie de cette émission parce qu'entre autres, vous êtes venu avec ce livre qui m'a intrigué peut-être parce que je trouve cette histoire incroyable et je trouve surtout absolument scandaleux qu'on n'en ait jamais parlé plus et je suis contente que ça fasse l'objet d'un livre jeunesse, La dernière nuit de l'Empress of Ireland, donc que vous avez signé. On va en parler un petit peu plus tard, mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Michel, en sachant que j'allais vous recevoir. À un moment donné, je suis tombée sur un article dans les journaux où on se demandait que lisent les écoliers à l'école au Québec en 2017. J'imagine que vous l'avez peut-être vu. Et ça m'a intéressée et je voudrais vous donner quelques titres qui sont lus. D'abord, il y a un titre de Michaela Nicole, qui est une jeune auteure québécoise. Tout le monde en dit le plus grand bien et elle a écrit notamment « Les filles bleues de l'été ». Alors, on apprend qu'en littérature québécoise contemporaine, au cégep de Saint-Jérôme, par exemple, on découvre Madame Nicole. Cyrano de Bergerac revient souvent. Moi, je me dis « Les écoliers ». Est-ce bien raisonnable? Il me semble que Cyrano, moi j'ai découvert ça, je veux dire, j'ai aimé ça à 40 ans.
Moi j'étais folle de Cyrano quand
j'étais
adolescente.
Quand vous étiez jeune? Ah bon, bah alors c'est ça.
Je connaissais la pièce par cœur, je trouvais ça tellement romantique.
Écoute. La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette, fait partie. L'ombre du vent, ça j'étais contente aussi de Carlos Ruiz Zafón, j'adore cet auteur catalan. En tout cas, j'étais contente de voir ça, j'imagine que ça vous fait plaisir aussi. J'avais
oui,
envie
très,
de,
très
de vous partager cela ainsi qu'à nos auditeurs. Alors, fin de cette entrevue, Michel Tisser, avec vous, je rappelle que la maison d'édition Pierre Tisser a 70 ans. Bravo, bravo,
merci.
Bravo. Bonne continuation à vous, à tous les auteurs que vous représentez. Puis merci d'être venu dans notre studio.
Merci à vous de me recevoir si chaleureusement.
Et ne manquez pas, hein, tout de suite après la petite pause, je vais m'entretenir avec José Ouimet, qui a signé La dernière nuit de l'Empress of Ireland, un livre jeunesse tout à fait bien écrit.
Que nous avons publié.
Édité par les éditions Pierre Tisser. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors voilà, nous y sommes avec José Ouimet. Vous savez, tantôt j'évoquais ces livres qui sont lus dans les écoles et on parle de grands romans classiques, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Les Trois Mousquetaires, tout ça. Mais savez-vous qu'entre autres, il y a beaucoup de littérature québécoise également qui sont lues dans nos écoles et notamment, José Ouimet, votre livre « La dernière nuit de l'Empress of Ireland » qui est un vrai succès auprès de nos écoliers et de leurs enseignants.
Ah, tout à fait, c'est un succès, c'est même un best-seller comme on l'appelle communément. Et j'ai fait beaucoup d'animations et de rencontres dans les écoles privées, publiques. Et c'est un livre qui est vraiment lu tant au primaire qu'au secondaire.
Alors, José, on ne s'est pas salué, mais on devrait peut-être le faire.
Bonjour!
Bonjour, parce qu'on s'était salué en première partie.
Oui, il y avait une danse.
J'ai eu envie de vous inviter à cette émission, d'une part parce que c'est aux éditions Pierre Tisser et que nous célébrions un petit peu plus tôt avec Michel Tisser les 70 ans de la maison d'édition, mais aussi parce que c'est un roman jeunesse et j'avais envie de parler un peu plus de romans jeunesse ici à l'émission. C'est la deuxième et la troisième raison, c'est que cette histoire de l'Empress of Ireland, moi-même, quand je suis arrivée au Québec et que la première fois que je suis allée visiter l'exposition, j'ai été tellement touchée par cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit ce roman jeunesse sur ce drame?
Quelque chose d'assez rigolo. Moi, j'ai trois filles et on les amenait souvent sur le bord de la mer aux États-Unis.
Oui.
Et une journée, ma fille, mon aînée, qui était en cinquième année, me disait « Oh, c'est plate, j'ai une de mes amies qui va aller visiter le long du fleuve, le Québec, tout ça. » Alors, mon mari et moi, on s'est dit « Est-ce qu'on est en train d'américaniser nos enfants? Alors, est-ce que le plaisir est seulement aux États-Unis? » Alors, cet été-là, on a décidé d'aller visiter Sainte-Luce-sur-Mer, Pointe-au-Père, aller un peu plus du côté du fleuve, et il s'est mis à pleuvoir. Alors, rapidement, centre d'information touristique, qu'est-ce qu'on peut faire avec trois jeunes entre
neuf? C'est le cinéma ou c'est le musée?
Alors, on a opté pour le musée, et on s'est retrouvés au musée de Pointe-au-Père. Et là, j'ai été complètement bouleversée en voyant la vidéo, en apprenant... la vidéo qui parle, entre autres, de la tragédie.
Il faut rappeler les faits maintenant,
En 1914, un 29 mai, coulait dans l'estuaire du Saint-Laurent un gros paquebot qui s'appelait l'Empress of Ireland, 2 ans après la tragédie du Titanic. Donc, ça se passait ici. Et il y avait à bord 132 enfants, je crois. Il y en a rescapé que 4. Moi, ce qui m'a frappé davantage dans cette histoire-là, c'est la durée du temps. Moi, j'ai un rapport temporel, spatial, qui est un peu particulier. Mm-hmm. Et mon rapport avec le temps, c'est comment est-ce que tu vis ça quand tu as 14 minutes pour sauver ta vie?
Oui, parce qu'il faut dire que ce bateau a été englouti en 14 minutes. C'est quand même saisissant.
C'est affolant.
Suite à une collision, c'est ça?
Oui, une collision entre un charbonnier norvégien et pendant une nuit, un matin, où il y a eu un brouillard laiteux.
Comme il y en a malheureusement dans ces
toujours
coins-là.
Toujours dans ces coins-là, parce que l'eau est froide, les terres sont chaudes, alors tout à fait. Oui. Et ce qui m'a aussi un peu touchée, c'est qu'il y a des gens qui sont allés faire des plongées sous-marines dans ce bateau-là et qui en sont morts, hein. Qui en sont allés vraiment... quand on était là, on avait
comment
parlé
ça,
en 85. C'est que des gens, des plongeurs sous-marins, comme vous et moi, si on avait cette activité-là, ben, on se retrouve à aller dans l'Empress of Ireland, dans l'EPA.
Oui.
Et les gens étaient tellement subjugués parce qu'en 14 minutes, en eau froide, il y avait tellement d'artefacts là-dedans. Alors les gens continuaient à faire leurs recherches sous l'eau. Et oubliait la prudence. Alors, il y a eu énormément de morts de plongeurs sous-marins.
Par quoi? Par hypothermie?
Je pense que c'est par imprudence, souvent, plus qu'autre chose.
Ils ne remontaient pas assez vite.
Et,
tellement il y a de choses, entre guillemets, à voir.
Oui, tellement il y a de choses à voir. Et,
14 minutes, un paquebot.
En eau froide, c'est terriblement beau. Hein? Vous avez vu, moi j'ai vu une vidéo justement d'un plongeur qui a... Et le Canada, donc le gouvernement canadien, a décidé d'en faire un musée sous-marin canadien pour éviter que, justement, monsieur et madame tout le monde aille là et aille chercher des objets, des artefacts, les ramène chez lui. J'avais même lu dans quelques années plus tard qu'il y avait eu même une loi qui avait interdit la vente d'objets aux États-Unis. Je pense que la personne qui possédait ces objets de collection-là en avait pour 1 500 000 dollars à vendre. Alors, c'était tous ces petits éléments-là, mais davantage sur la tragédie oubliée. J'ai voulu parler.
Voilà, exactement. Parce que c'est une tragédie oubliée. C'est vrai aussi que la guerre commençait. Alors, ça a été éclipsé beaucoup à cause de cela.
Hein? Tout à fait. Et puis... Pourquoi parler d'Ukrainiens qui retournaient chez eux? Pourquoi parler de joueurs de trombone, l'Armée du Salut qui allait faire un concert, et puis les enfants qui étaient là-dessus? Alors, c'était pas, puis d'autant plus que les enfants, à cette époque-là, ça n'avait pas de statut très, très particulier. Hein?
On ne s'intéressait pas, non, ce n'était pas l'époque de l'enfant roi.
Non, pas du tout.
C'est ce que vous voulez nous dire.
Oui, c'est ça.
Alors, donc, ce livre-là, justement, se penche sur ces quatre jeunes, hein, sur l'histoire de ces quatre enfants.
J'en ai choisi trois. Moi, je fais toujours
un
trio. Ouais,
d'accord.
C'est ça.
Donc, avec l'histoire de trois de ces enfants qui sont rescapés, alors autour duquel vous avez créé une histoire, bien
c'est
sûr.
Ça. C'est l'histoire, la tragédie. On embarque dans les souliers des enfants et on vit la tragédie. On vit le naufrage, on vit la collision. Alors, j'ai voulu recréer complètement l'impact. La difficulté de se sortir de là, comment on réagit en 14 minutes. Alors, c'est une tragédie. Lorsque Angèle Delaunay, qui était directrice aux éditions Pierre Tissère, me disait On va le publier. Moi, je disais, c'est une tragédie. Les enfants aiment des choses rigolotes, alors pourquoi? Mais finalement, ça, la tragédie, les enfants adorent.
Mais oui, mais attendez, quelle aventure, quelle histoire. Oui. En plus, les jeunes d'aujourd'hui ont tous vu Titanic.
La plupart, oui.
Donc là, ils disent, hein, ça se passait chez nous.
Ça se passait chez nous.
En 14 minutes.
Il y en a tellement de choses qui se passaient chez nous. Oui. Et c'est énorme. Moi, j'ai écrit une trentaine de romans sur la fille du bourreau, le dernier bourreau français, Charlotte Ratier.
Oui.
Comment, à 18 ans, se trouvait un mari à l'époque, si son père est bourreau.
Ah oui. Eh oui.
C'est pas toujours les meilleures parties qui se présentent. Toutes sortes de trucs comme ça. Ouais. Ou encore Marie-Claude Chamois, une fille du roi qui n'était pas du tout orpheline ou pauvre, mais qui est devenue l'ancêtre des Frigons d'Amérique.
Ah, OK, OK, OK.
Moi, j'aime parler de ces gens-là.
Vous aimez parler d'histoire, hein, parce que vous écrivez pour les adultes aussi. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard dans mes titres en rafale, parce qu'il y a un titre, La marche des nuages, notamment.
Oui.
C'est le tome 2 qui a été enregistré. Je vais en reparler un petit peu plus tard, mais la littérature jeunesse, il nous reste une petite minute. J'aimerais vous dire que vous nous disiez qu'est-ce qui fait qu'un auteur se régale à écrire pour les jeunes?
Le rythme. Alors, mais j'adore écrire pour les adultes pour la description, mais pour l'enfant, lorsqu'on écrit pour un enfant, c'est davantage le rythme, c'est davantage l'action, on est dans l'aventure et tout est possible chez les enfants.
Bien sûr, bien sûr.
L'imaginaire est tellement débordant.
Bien sûr. Alors, vous continuez d'écrire et pour les adultes et pour les enfants?
Oui.
Est-ce que vous planchez sur d'autres sujets en ce moment?
Oui, je planche sur Un village de rêve, qui est l'histoire de... comme un roman d'anticipation pour les adolescents, où est-ce que ça va se situer dans un endroit où les gens souffrant d'électrosensibilité se retrouvent là, il n'y a aucune onde magnétique, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas... Alors, comment vivre dans ce milieu-là? Mais il y a deux parutions pour l'automne prochain, 2018. Il va y avoir la biographie romancée de la Bolduc aux éditions de Lysatis pour les jeunes.
OK.
Et le tome 3 de La marche des nuages pour adultes.
Alors, le tome 3 sera lu très certainement. Donc, il sortira, mais vous savez, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en attendant, n'importe qui peut se plonger dans La dernière nuit de l'Empress of Ireland. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à dire en anglais, de José Ouimet. Et quand je dis vous plonger, d'ailleurs...
C'est un petit peu ça quand même.
Et donc de José Ouimet, il y a d'autres titres de vous, José, qui sont disponibles aussi bien pour jeunesse que pour adultes au service québécois du livre adapté, dont notamment celui dont je vous parlais, La marche des nuages. José Ouimet, je vous remercie d'être venu.
Merci infiniment de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, c'est un grand bonheur. Au revoir.
Au revoir.
Alors, si tout va bien, je devrais maintenant avoir au bout du téléphone notre ami Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde, je suis là.
Alors, cher Yannick, justement, on parlait de plongée. Vous savez, je rigole toujours. Oui, mais parce que on parlait de plongée à cause de ce drame avec José Ouimet. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a des hasards toujours à cette émission qui font que là, eh bien, le titre du livre dont vous allez nous parler, c'est Plongée, mais vraiment, on ne l'a pas fait exprès. Et ce n'est pas livre jeunesse, hein?
Ah non, pas du tout, du tout.
Pas du tout, du tout, voilà. Vous êtes l'exception qui confirme la règle.
Oui. Alors, c'est un livre, en fait, c'est un roman de Christophe Onodibio. Onodibio, il faudrait l'épeler tantôt.
Oui, alors c'est en trois mots, hein? Ono, O-N-O, trait d'union, D-I-T, trait d'union bio comme bio, B-I-O.
Oui, c'est ça. C'est un auteur français, normand, en fait, qui vient de Normandie. Plongée, c'est son quatrième ou cinquième roman, là. Je me souviens plus exactement, mais c'est un roman où la trame de fond, ben, c'est une histoire d'amour. Alors, ce n'est pas un roman d'amour, hein? C'est un roman sur l'amour.
D'accord.
Ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la différence parce que...
Quelle est-elle? Oui, c'est ça. Juste un petit explicatif, peut-être.
Ce n'est pas un roman Dans ce cas-ci, c'est pas un roman à l'eau de rose. Pas dire que tous les romans d'amour sont des romans à l'eau de rose, mais un roman d'amour, c'est vraiment l'histoire d'un amour qui nous élève, etc.
Et qui ne veut pas mourir.
C'est exactement, j'ai un amour. Je vais me mettre à la chance. Dans ce cas-ci, c'est vraiment l'histoire d'un amour qui, avec ses hauts et ses bas, a engendré un petit garçon qui s'appelle Hector. Et dans le fond, c'est l'histoire d'Hector. Parce que Christophe Onodibio, lui, l'auteur, tout comme son personnage d'ailleurs principal, qui est César, un journaliste quadragénaire, croit qu'on ne peut pas penser l'avenir sans comprendre le passé. Alors, il explique à son fils l'histoire de son origine, de son passé. Dès le départ, au début du livre, on sait déjà, en fait, dès la quatrième de couverture, on sait que Paz, donc la mère d'Hector, est retrouvée morte sur une plage d'un pays du Moyen-Orient. Alors, on sait déjà là que l'amour ne durera pas toujours. Ça, c'est certain. Et il lui explique un peu, César explique à son fils comment est arrivée cette histoire d'amour, comment il est arrivé lui-là. Et ce n'est pas triste tout le temps parce qu'on suit vraiment, dès le début, l'évolution de leur relation de couple et de leur amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons moments. Et tout ça commence dans le 14e arrondissement à Paris, alors que le journaliste critique d'art aperçoit une belle jeune femme et il veut la retracer. Ça s'avère que c'est une photographe de 23 ans. Lui, il est quadragénaire, elle a 23 ans. Elle fait une exposition dans une galerie et, bien sûr, le journaliste, voulant la conquérir, et rédige une critique élogieuse qui, l'espère, va mener la jeune femme à le contacter, pleine de gratitude, et l'amour commencera. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. Paz, qui est une belle jeune espagnole, en fait, elle lit cette critique-là et elle le contacte pour un rendez-vous, ils se rencontrent, mais elle n'est pas de bonne humeur du tout, du tout, du tout. Hein. Elle l'invective parce qu'il n'a pas compris le sens de ses œuvres. Et puis d'ailleurs, tout le long, hein, on parle justement du milieu de l'art, du milieu de la critique de l'art et comment il peut y avoir des fois des incompréhensions qui peuvent durer en fait longtemps. Parce que lui, dans les photos de plage, parce qu'elle se plaît à faire des photos de plage, il voit le plaisir, le fait d'être ensemble, le plaisir d'être en vie. Alors qu'elle, c'est complètement l'inverse. Hein. Elle voit les gens qui envahissent la nature. Et pour elle, la beauté de la mer puis d'un paysage, ça doit rester vierge et l'homme vient dévisager, dénaturer les lieux. Bien sûr, on s'en doute, une histoire d'amour naît, mais cette espèce de malentendu reste toujours entre eux. Et puis, c'est pas la seule des différences. Hein. La jeune femme, elle veut voyager, découvrir le monde, c'est sûr, à 23 ans, on est tout bouillonnant. Mais le journaliste quadragénaire, lui, il a quitté une carrière, justement, où il allait partout dans le monde. Il était reporter à l'étranger. Et pour lui, là, il veut plus quitter l'Europe. L'étranger, c'est le chaos. C'est des dangers potentiels. Et bon, tout le long, ça va être une source de
conflit un peu entre
eux. Oui, c'est ça, entre les deux. Puis, bon, effectivement, on sait qu'à un moment donné, elle quittera, puisqu'elle est retrouvée sur une plage nue, morte nue sur une plage du Moyen-Orient. Mais c'est un roman qui est très poétique, qui nous fait voyager.
Avec une belle écriture, je crois. Hein. Il a une écriture absolument magnifique. Hein. C'est du moins ce que j'ai lu dans beaucoup de critiques. Malheureusement, vous savez, je ne peux pas lire tous les livres dont on parle ici à l'émission, mais je lisais beaucoup sur l'écriture. Et c'est un jeune auteur français. Hein.
Oui, c'est en fait, il a 43 ans, mm-hmm. si je ne m'abuse. Puis c'est un homme qui est très, très cultivé, qui est très mm-hmm. sympathique. Je l'ai rencontré sur un plateau télé à Paris.
Ah oui?
Ce printemps. Il est fascinant.
Oui.
Et tout ça, ça se sent aussi dans son écriture.
Oui, c'est vraiment là.
Il y a de très beaux passages. Je vous en ai pas sorti un parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire.
Vous commencez à connaître l'émission.
Mais c'est intéressant de le lire sur l'amour, la quête de l'autre et tout.
Ben voyez-vous, j'ai sous les yeux alors quelques critiques ici de son écriture sublime. Christophe Honneau dit bio nous immerge littéralement dans cette histoire où s'entremêlent donc l'art et l'amour, tout en brossant le portrait du monde actuel et de ses dérives. Il y a quelqu'un qui dit enfin un auteur contemporain qui a une belle plume, beaucoup de choses à dire sur de nombreux sujets qu'il connaît bien et qu'il aborde sans vulgarité ni cynisme. Et puis par contre, il y en a un autre qui a dit « Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas aimé ce livre, même en cherchant bien, désolé, je ne vois rien de positif. Le roman est rempli de clichés, les personnages sont caricaturaux, l'histoire est quelconque et prévisible. » Vous êtes d'accord avec ça?
Ah non, non.
Non, hein?
Non.
Non, mais je veux dire, je trouve ça intéressant. Vous savez, il y a forcément différents avis hein, sur un livre.
Sûr.
Et puis, alors, je me demandais ce que vous en pensiez, vous.
Non, Yannick. Moi, je trouve que en fait, on a vraiment. Oui, il y a des trucs qui sont peut-être un peu prévisibles. C'est une histoire d'amour.
Oui.
On ne peut pas nécessairement tout réinventer, mais
non, c'est sûr.
Je trouve que les personnages sont entiers, sont bien campés. Et en fait, j'ai choisi ce livre-là parce que de le relire, parce que je l'ai lu il y a quelques années, parce que justement, en mars dernier, il sortait « Croire au merveilleux ». ». C'est la suite de ce roman, ou comment César se reconstruit.
Ah, mais par contre, je n'ai pas vérifié s'il était disponible au SQLA ou pas.
Sûrement pas tout de suite.
Mais il y a des chances pour qu'il le soit, parce qu'il n'y a pas de raison que le numéro 2 ne sorte pas. Hein?
Non, en effet. Puis s'il sort, ben, je vous en parlerai.
D'accord, Yannick, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, Yannick Olassa, d'être fidèle à cette émission. On vous écoute avec toujours le plus grand des plaisirs. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et je n'oublie pas qu'il s'agit quand même d'un spécial jeunesse. Alors, retour à la littérature jeunesse. Et là, je suis contente, parce que j'accueille en studio une voix que vous ne connaissez pas. C'est la première fois qu'elle participe à notre émission. Cette jeune femme-là, bonjour Christelle.
Bonjour Clotilde.
S'appelle Christelle Quintin. Vous allez vite découvrir qu'elle a une voix absolument extraordinaire. Très, très, très belle voix, très douce, qu'on a envie d'entendre et d'écouter. Alors, c'est fantastique, Christelle, que vous fassiez du bénévolat avec cette belle voix-là.
C'est gentil, merci du compliment, merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire du bénévolat?
En fait, moi, je suis tombée sur le Vues et Voix parce que je voulais pratiquer justement la voix. Je voulais faire de la surimpression vocale peut-être. Et à ma grande surprise, je suis tombée sur Vues et Voix et je suis tombée sur des cours de lecture, en fait, qu'on a eu ensemble.
D'accord. Ouais.
Et à chaque fois que je reviens, à chaque semaine, je ne cesse de me surprendre et de m'amuser. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Puis je vais toucher du bois parce que j'ai envie que ça continue. Je me sens très privilégiée.
C'est vrai de
ça.
Faire ça?
Absolument.
Et vous savez, pour nous, c'est fantastique parce que, évidemment, je ne vais pas reprocher aux personnes qui sont à la retraite de venir donner de leur temps. Mais on dit non, mais évidemment non. Mais on dit souvent que, ah oui, mais ce sont des voix parfois de gens, on va dire très adultes, d'accord? Mais vous êtes quelques-uns, quelques-unes à être quand même très jeune. Je pense que vous êtes pas mal la plus jeune, Christelle.
Ah, ça se peut, mais oui, c'est vrai que j'en ai 23 ans.
23 ans, voilà. Alors, et ça s'entend dans cette voix qui est pleine de sourires. Alors, on peut se poser la question, hein, qu'est-ce qu'une jeune fille de 23 ans qui est obligée de gagner sa vie, eh bien, pourquoi prend-elle du temps pour venir faire du bénévolat? Eh bien, là, ce que j'ai cru entendre, c'est pour le plaisir. Quoi.
Absolument, absolument. Initialement, c'était un but pédagogique. C'était pour améliorer ma lecture. Puis au final, je suis tombée en amour avec ça.
Ah,
c'est très plaisant.
Et je vous souhaite de pouvoir gagner votre vie aussi à un moment donné avec ça. Ce serait, parce que c'est bien beau le bénévolat, mais ça ne nourrit pas beaucoup sa jeunesse. Bon, je voudrais que nous évoquions peut-être d'abord très rapidement quelques livres jeunesse que vous avez lus, notamment de Louise-Catherine Bergeron. Vous avez lu une histoire de tante. Tante, midi, minuit et les deux coucous. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, oui, absolument. C'est un livre jeunesse, donc une toute petite histoire.
Oui.
Avec un personnage, ma foi, très coquin, qui visite ses deux tantes,
okay.
Donc midi et minuit.
Oui.
Ces deux tantes qui s'occupent d'horloges et il va vivre une espèce d'aventure, est-ce que je pourrais dire, une aventure assez remplie de péripéties,
d'accord.
Mais toujours dans la folie et dans l'amusement.
D'accord. Et puis, on retrouve alors une autre tante dans un autre bouquin. C'est tante, alors on dit quoi? Magie noire, j'imagine, pour magie noire.
Et on s'est posé la question.
Et les chocolats ensorcelés. Oui, vous êtes posé la question.
Oui, et les chocolats ensorcelés. Et ça, c'est très, très drôle parce que les chocolats transforment les gens. Donc, tous ceux qui passent dans l'histoire, que ce soit le chauffeur d'autobus, la dame à l'épicerie, vont se faire ensorceler par la tante, en fait.
OK.
Et le personnage principal, le petit garçon, en fait, il n'est même pas sûr d'aimer ça au début.
OK.
Oh non, puis le mystère, c'est de trouver le remède pour que les gens puissent reprendre leur apparence normale.
D'accord. Avancez-vous un petit peu, Christelle, qu'on vous entende bien. Et puis, il y en a un... Je sais que c'est assez récent, mais il est sorti, je précise, il est déjà au SQLA. Mais c'est un personnage que vous aimez bien, c'est Juliette Gagnon.
Oui, absolument. Juliette, ça a été une surprise pour moi aussi parce que c'est un livre de filles. Et c'est pas quelque chose...
C'est pas péjoratif.
Non, pas du tout. Non. Et puis là, c'est important de le dire.
D'accord.
C'est très important de le dire. Parce que moi, en fait, je suis pas quelqu'un qui va lire des livres de filles, puis... Bon, ici, c'est comme ça, il faut lire les livres qu'on a à lire, en fait. Mais je suis tombée en amour avec ça parce que rapidement, j'avais l'impression que c'était l'histoire de Christelle Quintin.
Ah oui, hein?
Ah oui, absolument. Puis ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que ce livre-là, c'est le tome 2, je crois, d'une série de 3.
D'accord, donc là, celui-ci, c'est la vie, la vie sucrée de Juliette Gagnon.
Exactement, exactement. Et j'ai su... Il y avait un tome 1 et un tome 3 quand j'étais rendue à la moitié de la lecture de ce livre.
Ah!
Et ça ne m'a pas du tout gênée. Du tout.
Ça veut dire que si le tome 1, par exemple, n'est pas disponible,
exactement.
C'est pas grave, quoi. C'est une histoire à part entière.
Exactement.
Qu'est-ce qui lui arrive à cette Juliette?
Hé, hey, Juliette. Elle aurait besoin qu'on la prenne par... par les épaules, puis qu'on la secoue un petit peu, là.
Qu'on la brasse, comme on dit en bon québécois. On va te brasser, mais
OK, oui. Elle se met dans des histoires, là, ma foi, assez intéressantes. En fait, Juliette est une jeune femme qui veut vivre, simplement. Une jeune femme, une artiste photographe, qui a deux amies, donc Marie-Pierre et Clémence, qui sont trois personnages tout à fait différents, mais qui se complètent bien. Et Juliette tombe en amour, en fait, avec un ancien amour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous... En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut tous se rattacher à ce personnage-là.
Mais oui, ça peut arriver à tout le monde, oui.
Absolument. Mais le truc, c'est qu'elle tombe en amour avec FX, dont son prénom.
François-Xavier.
Exactement. François-Xavier.
Oui.
Elle tombe en amour avec FX à nouveau. Et elle ne veut plus le lâcher, même si lui est marié avec une merveilleuse grecque.
Ooh.
Donc là, oui, je sais. Donc là, Juliette se retrouve, à la fois, elle veut mener à terme son projet de photographe, mais en même temps, elle a le cœur avec FX constamment. Elle est déchirée par le fait qu'elle ne veut pas s'engager dans une histoire du genre, mais elle l'aime plus que tout.
Oh, la vie sucrée de Juliette Gagnon. Alors,
absolument.
Et il y a tome 1 et 2.
Oui, et c'est très intéressant parce que, en fait, ce que j'ai su par la suite aussi, c'est que Juliette Gagnon est en fait la fille de Charlotte Lavigne. Et là, ça n'a peut-être pas d'importance, mais oui, ça a l'importance.
Parce que ça fait aussi l'objet de livres.
Oui, absolument.
Oui.
C'est qu'en fait, il y a eu. C'est la première série de
Nathalie Roy.
Exactement.
L'auteur.
Ouais. Exactement. Puis ça, c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression que, peu importe par quel roman on commence, j'ai l'impression qu'on va comprendre des choses, peu importe.
Au fur et à mesure.
Exactement.
Et ça, c'est important de le souligner, parce que moi, ça, comme je ne le savais pas, je n'ai pas vérifié s'il est au SQLA. Hein, là, est-ce que ce dont vous nous parlez, là, la vie de Charlotte Lavigne, la vie épicée de Charlotte Lavigne, en 4 tomes.
Eh bien, s'il n'est pas là, je vais le proposer, moi, pour en faire la lecture. C'est bon, ça?
Eh bien, bravo, Christelle! Bravo!
Mais je sais que les autres livres de Juliette sont là.
Bon, Christelle, ne nous abandonnez pas à Vues et Voix. Vous êtes importante. Votre belle énergie et votre belle voix, on adore ça. Merci beaucoup d'être venue à cette émission.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse. Christelle Quintin, c'est son nom. Alors, c'est ainsi que va s'achever notre émission. Oui, pas beaucoup de temps pour les rafales aujourd'hui. Juste vous rappeler que La Marche des Nuages de José Ouimet, que j'ai reçu aujourd'hui, est maintenant disponible, le tome 2 au SQLA. Vous dire aussi que la semaine prochaine, nous passons de la littérature jeunesse à la littérature adulte avec Daniel Ouimet, qui viendra nous parler de ses amis et de ses amours et en quoi les hommes ont été très importants dans sa vie. Il y aura une infolettre sonore signée Kaeb. Il y aura également Claudia Nigrelli, qui est non-voyante et qui viendra nous parler d'un livre. Alors merci à mon équipe, autrement dit Mathieu Tessier et moi-même. Et puis merci à mes invités du jour, Gérald Cousineau, Michel Tisser, José Ouimet, Christelle Quintin et Yannick Olassa. Il y avait du monde ici en studio. Passez une belle semaine, mes amis. Bonne lecture. Régalez-vous bien avec les livres qui vous sont lus ici ou ailleurs. C'était Des livres pleins les oreilles, Clotilde Seille. À la semaine prochaine. Salut!